VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous, 14h à Bujumbura, 13h à Bangui en Centrafrique, 13h temps universel. Il est 8h ici à Washington. À Lubumbashi en RDC, des militants d'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène près de l'aéroport. Ils se rendaient accueillir leur chef de file, le président du rassemblement, la principale coalition d'opposition, Félix Tshisekedi. La mairie de Lubumbashi avait ordonné de disperser tout attroupement de plus de 5 personnes. La mission de l'ONU, la MONUSCO, a appelé les autorités à libérer immédiatement plus d'une vingtaine de militants d'opposition arrêtés la veille. Ils participaient à une réunion privée au siège local du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Deux principaux leaders de la rébellion des forces populaires du Burundi ont été arrêtés samedi dans l'est de la Tanzanie. Un communiqué de cette rébellion précise qu'ils ont été extradés hier au Burundi. Il s'agit du général Jérémy Niranyibagira et du colonel Edouard Nshimirimana, respectivement numéro 1 et numéro 2 de son mouvement rebelle. Aucune source officielle tanzanienne ou burundaise n'a dans l'immédiat pu être jointe pour confirmer ou nier l'information. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain en Centrafrique, où les violences ont redoublé dans les provinces et le mandat des casques bleus de la MINUSCA doit être renouvelé. Le point avec Idriss Fall.
Ancien patron du HCR, Antonio Guterres, s'est déjà rendu en Centrafrique. Cette visite sera sa première à une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier. Le secrétaire général de l'ONU arrive dans un contexte sécuritaire tendu. Bangui, la capitale, est relativement calme, mais ces dernières semaines, les affrontements à répétition ont eu lieu vers Bambari, Bria et Bangassou, faisant des centaines de morts. Rien qu'à Bangassou, où doit se rendre M. Guterres, 12 casques bleus ont été tués depuis le début de l'année. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité, le patron de l'ONU a demandé l'envoi de 900 soldats supplémentaires. Le mandat de la MINUSCA avec ses quelques 10 000 casques bleus doit s'achever le 15 novembre et devrait être renouvelé. La mission onusienne est accusée de passivité et même de collusion avec des groupes armés et subit dans le même temps une avalanche d'accusations d'agressions sexuelles.
Idriss Fall.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a regagné Abidjan hier soir après une absence de plus de 2 mois du pays. Récemment, son chef du protocole, Souleymane Camarate Kone di Soltosol, a été récemment incarcéré dans le cadre de l'affaire d'une cache d'armes découverte chez ce dernier à Bouaké. Narita Namasté.
Guillaume Soro a accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny d'Abidjan peu avant 19h locale par ses partisans qui scandaient son nom. Guillaume Soro, aussi appelé Tenik Banani, l'enfant terrible ou encore Bolgota, dit être venu prendre sa place dans le jeu politique ivoirien.
Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire.
Un retour Beka qui intervient dans un climat politique pénitieux entre l'ex-secrétaire général des forces nouvelles de l'ex-rébellion et son mentor Alassane Ouattara. Une querelle alimentée par l'arrestation pour complot contre l'État début octobre dernier de son chef de protocole après la découverte en mai d'une cache d'armes dans sa résidence de Bouaké. Guillaume Soro prévoit dans son agenda au plus pressé rencontrer Ouattara pour sûrement avoir des explications.
Dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui.
Soutoussou, quant à lui, depuis sa prison, accuse le pouvoir Ouattara de viser indirectement Soro. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Et dans le Sahel, au Mali, les ambassadeurs du Conseil de sécurité ont visité hier à Sévaré le poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. À Bamako, la veille, ils avaient exprimé leur impatience face au retard dans l'application de l'accord de paix de 2015. Retour sur l'étape malienne avec notre correspondant sur place, Mopti Mamoudou Bokoum.
Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont rencontré le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Didier Dacou.
Nous attendons un appui politique, fondamentalement d'abord une reconnaissance de la force et puis un accompagnement en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de développement capacitaire en quelque sorte, pour que la force puisse répondre de façon efficace aux attentes des pays du G5 Sahel et des populations.
Des populations qui souffrent aujourd'hui de l'insécurité, particulièrement dans les régions centre du Mali. Tata Touré est la présidente des organisations de la société civile de Mopti.
C'est une insécurité infernale. On ne peut plus aller au marché, on ne peut plus voyager, nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. On est fatigué, on est très fatigué.
Un cri de cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. François Delattre, ambassadeur de la France auprès des Nations Unies.
Leur cri de détresse à certains égards est de dire nous avons impérativement besoin de vous pour rétablir des conditions de sécurité décentes dans la région. Et maintenant, c'est à nous d'apporter à la force du G5 Sahel le soutien dont elle a besoin.
En attendant, les populations de la région prennent leur mal en patience. Mamoudou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont bouclé hier à Ouagadougou une visite dans le Sahel, qualifiée d'utile par la France dans la perspective du lancement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur mouvement de grève dans toutes les juridictions du pays pour une semaine à compter d'aujourd'hui. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail et surtout le renouvellement du bureau du Conseil supérieur de la magistrature dont le mandat est arrivé à terme. Le point avec André Kodmajingar.
Cette grève pénalise non seulement les prévenus et détenus des geôles, des brigades et commissariats, mais les justiciables qui traînent dans les couloirs du palais de la justice de N'Djamena.
Un citoyen qui a un problème au niveau de justice, qui t'attend presque 3 mois, 4 mois, parfois, quand tu viens, il n'y a pas les jugements. Aujourd'hui, tant que tu quittes la maison ici, c'est avec les dépenses. Tu viens ici, encore il n'y a rien, tu vas passer toute la journée et puis tout ça, donc que c'est déplorable.
Je suis venu du Niger, on a un problème d'héritage, c'est à cause de ça que je suis venu aux justices, parce que mes frères sont refusés. Maintenant, j'ai été à la justice, on m'a dit que lundi, il y a une grève. Vraiment, je demande au gouvernement de tout faire pour négocier avec eux, pour bien de la population. Par exemple, pour moi, qui est venu d'extérieur. J'ai laissé ma famille là-bas. Donc, vraiment, ça me gêne.
Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Alarakete Sanengar, en est conscient, mais il évoque le caractère légitime de ce mouvement de grève.
Bien que vous nous voyez dehors, nous sommes plus en prison qu'eux. Avec quelle conscience le magistrat peut rendre une décision qui puisse aider celui-là qui est en prison avec ces conditions dans lesquelles il a été travaillé? Nous ne revendiquons que notre tranquillité pour travailler justement pour la justice. Donc la responsabilité ne retombera pas sur les magistrats. Le pays a déjà trop de problèmes, nous ne voulons pas lui en ajouter. Mais c'est une question légitime parce que ce sont les textes qui nous reconnaissent ces droits-là.
Contacté à plusieurs reprises par VOA Afrique, aucun responsable du ministère de la Justice ne souhaite se prononcer sur ce énième débrayage. Les magistrats dénoncent la mauvaise foi des responsables du ministère de tutelle dans l'exécution des instructions du chef de l'État et estiment que le moment viendra où chacun aura le temps de s'expliquer de sa gestion. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Soudan, condamnation à 6 mois de prison du rédacteur en chef d'un journal indépendant Al-Tayar pour avoir publié un article accusant la famille du président Al-Bashir de corruption. L'auteur de cet article a lui écopé d'une peine de 3 ans de prison avec sursis. Ousmane Mergani, un ingénieur formé aux États-Unis, devenu journaliste et son journal sont régulièrement la cible des autorités soudanaises. Et des éditions entières de ce quotidien ont plusieurs fois été confisquées par le puissant service national du renseignement et de la sécurité. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annulé hier la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS. Sa décision avait suscité une vive polémique. L'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a exhorté le président français Emmanuel Macron a cessé la scandaleuse politique de tolérance de la France envers le gouvernement répressif du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le président Macron rencontre pour la première fois son homologue égyptien demain à l'Élysée. Paris a assuré que la situation des droits de l'homme serait abordée. Point final à ce bulletin d'information. Merci de votre oreille attentive. Je vous retrouve dans 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.